Sites internet cbxlibris.org et cbxlibris.net, collection non licet omnibus adire corintum. Vatsyayana. Théologie hindoue, le Kama Sutra, règle de l'amour de Vatsyayana, morale des brahmanes. Traduit par eux, la mairesse, ancien ingénieur en chef des établissements français dans l'Inde, traducteur de la morale du divin paria. Paris, Georges Carré, éditeur, 1891. 31 pages et 296 pages. Ci-dessous, vous trouverez, en guise de présentation de l'ouvrage que nous vous proposons de lire, des extraits de son introduction, de son avant-propos. Extraits, pages 26 et 27. Littérature érotique de l'Inde, son rôle religieux et politique, le Kama Sutra ou l'art d'aimer de Vatsyayana, plan de cet ouvrage. Nous avons vu les Brahmes introduire l'érotisme le plus réaliste dans le culte, dans la religion et dans les livres qui en font partie intégrante, comme les Puranas, les Tantras, les catéchismes des sectes, etc. Il s'en est asservi, bien avant la venue de Bouddha, pour captiver les populations sujettes, et les rallier à leur cause dans leur lutte contre les Kshatriyas. Le bouddhisme conquit l'Inde si complètement que les Brahmes presque partout furent délaissés, la plupart durs, pour vivre, recourir à tous les métiers que Manu leur permet dans les temps de détresse, ils avaient la persistance et l'habileté des aristocraties héréditaires. Gens essentiellement pratiques et aptes aux affaires, juristes, financiers, administrateurs, diplomates, aux besoins soldats et généraux, dialecticiens vigoureux, subtils, polémistes sans scrupules, poètes élégants, ingénieux et quelquefois pleins d'éclat et de génie, ils se rendirent indispensables aux princes et aux grands par les services que seuls savaient leur rendre, et gagnèrent leur faveur par l'agrément de leur esprit et de leur talent, et par la souplesse de leur caractère. En même temps qu'ils développaient dans les masses le vishnouvisme ou plutôt la religion de Krishna, que le Bouddha avait condamné, ils produisaient beaucoup d'œuvres remarquables. Ils ennoblissaient par de grandes épopées, et popularisaient par des légendes écrites les dieux et les héros. Restés les seuls héritiers du genre, aryens, dans l'Inde, et possédant dans la langue sanscrite, un admirable instrument pour la poésie et la philosophie, appel de notes, a, renouvelèrent tout, hymne, poème épique, système théosophique, code de loi. Ce fut une véritable renaissance. Des rois, amis de l'ancienne littérature, tinrent à leur cour des académies de poètes aimables, et de beaux esprits qu'ils payaient fort cher. On y improvisait des vers et jusqu'à des madrigaux et des épigrammes. Parmi ces poètes, on cite Kalidasa, l'auteur du drame si admiré de Sakuntala. Commencé avant l'ère chrétienne, ce mouvement littéraire se continua jusqu'à la conquête musulmane. Cette littérature des Brahmes plaisait beaucoup plus que la soporifique et nuageuse métaphysique des bouddhistes. La faveur des princes les aidait à écraser leurs adversaires. Ils achevèrent de se la concilier en ayant pour leur usage, et pour celui de ce qu'on appellerait aujourd'hui la haute société et la bonne compagnie et pour eux-mêmes, en ce qui concerne les plaisirs charnels, une morale des plus faciles. Les règles ont été tracées par Vatsyayana dans le Kama Sutra traité de l'amour, art d'aimer, qui est considéré comme le chef-d'œuvre et le code sur la matière. Ce livre doit être rattaché à la renaissance brahmanique, il a été écrit pendant la lutte entre les brahmes et les bouddhistes, puisqu'il défend aux épouses de fréquenter les mendiantes bouddhistes, on sait que les religieuses bouddhistes étaient mendiantes. Note, A, du bas de la page 27. A, ce mouvement extraordinaire suivi de près l'invention et l'adoption de l'écriture sanscrite, qui servirent à la fois au bouddhisme, et à la renaissance brahmanique, de même que la découverte de l'imprimerie, favorisa le développement de la réforme et de la renaissance. Extrait, page 29 à 31. L'art d'aimer, de Vatsyayana, se distingue de tous ses écrits par son caractère, et sa forme exclusivement didactique. Chacune de ces parties forme un catéchisme, catéchisme des rapports sexuels sous toutes les formes, et du flirtage pour les deux sexes, catéchisme des épouses et du harem, de la séduction et du courtage d'amour, et enfin catéchisme des courtisanes. C'est un document historique précieux, car il nous initie de la manière la plus intime aux mœurs de la haute société hindoue de l'époque, il y a environ 2000 ans, et au conseil de plaisir et de duplicité des brahmes. La curiosité qu'éveille le fond, ne suffirait peut-être pas à faire supporter la sécheresse de la forme, si le lecteur était strictement limité aux leçons de Vatsyayana, pour éviter cet écueil on a mis à la suite de chacune d'elles, dans un appendice au chapitre qui la contient, les équivalents ou les correspondants de la morale païenne qui se trouvent dans les poètes, les seuls docteurs et smurfs de l'antiquité païenne, on a cité aussi quelques poètes hindous, et deux morceaux concernant les Chinois. On a complété chaque appendice par la morale iranienne, soit la morale chrétienne empruntée à la théologie morale du Père Guri, en se bornant à un petit nombre d'articles accompagnés quelquefois de renseignements physiologiques. Ce rapprochement des textes divers, se rapportant respectivement à chaque sujet, permet au lecteur de se faire une idée relative très exacte des trois morales sur chaque point traité. Celle que notre raison préfère, est évidemment la morale iranienne socialement le plus recommandable, source des plaisirs les plus purs, et, par cela même, peut-être les plus grands, parce que le cœur y entre pour une forte part. La morale du paganisme nous séduit par sa facilité, par l'art et la poésie qui l'accompagnent, mais, à la réflexion, nous sommes frappés d'une supériorité de l'art d'aimer de Vatsyayana sur celui des poètes latins. Ceux-ci ne chantent que la volupté, le plaisir égoïste, et souvent le libertinage grossier d'une jeunesse habituée à la brutalité des camps. Vatsyayana donne pour but aux efforts de l'homme, la satisfaction de la femme. C'est déjà, indépendamment même de la procréation, un point de vue altruiste par comparaison avec celui auquel se plaçaient les rudes enfants de Romulus, tels que nous les ont dépeints Catulle, Tibulle et Juvénal. On sait que ce dernier commence sa satire sur les femmes de son temps par le conseil de prendre un mignon, plutôt qu'une épouse pour laquelle il faudrait se fatiguer les flancs. La philopédie était plus en honneur à Rome que le mariage, elle était inconnue à l'Inde brahmanique, Vatsyayana n'en fait même pas mention. Un autre avantage des Indiens sur les Romains, c'était la décence extérieure dans les rapports entre les deux sexes. Les bonnes castes de l'Inde n'ont jamais rien connu, qui ressemble à l'orgie romaine sous les Césars, et au cynisme de Caligula. Dans l'Antiquité, une intrigue amoureuse n'était point une affaire de cœur. Pas plus chez les Indiens que chez les Romains, on ne trouve dans l'amour ce que nous appelons la tendresse, c'est là un sentiment tout moderne, et qui prête à nos poètes élégiaques, tels que Parny, André Chénier, etc., un charme que n'ont point les Latins. Properce est le seul qui approche de la délicatesse moderne. Mais la dureté romaine se retrouvait jusque dans la galanterie. Les jeunes Romains maltraitaient leurs maîtresses. Au cirque, on représentait des scènes mythologiques où le meurtre, non point simulé, mais bien réel, se mêlait à l'amour quelquefois bestial, et, où souvent on figurait, Tibère et Néron. Au contraire, l'Inde obéit à ce précepte, ne frappez point une femme, même avec une fleur. Nous rappellerons enfin que, dans l'Inde, l'amour est au service de la religion, tandis qu'à Rome la religion, le culte de Vénus par exemple, était au service de l'amour comme de la politique. L'érotisme joue un grand rôle dans toutes les fêtes religieuses des hindous, il en est pour eux le principal attrait. Tels sont les contrastes que notre travail fait ressortir, et ils ne sont pas sans intérêt pour la science des religions.